débat, les questions, et puis on peut jouer entre nos deux intervenantes s'il y a besoin. Ouais.
Juste une question, moi je suis d'une agence d'urbanisme, donc je peux parler fort.
Oui, mais plus, c'est mieux sur le micro, comme ça les gens peuvent.
Je suis d'une agence d'urbanisme qui bosse pas mal avec la métropole Grenoble. Je rebondis pas sur les derniers éléments de la démocratie, juste est-ce que vous pourriez continuer le témoignage sur l'aspect transversalité que vous avez évoqué en parlant de la nécessaire réorganisation des délégations d'élus et des services. On voit bien que la question de la transversalité, ça devient un peu une forme de nouvelle injonction. Et au final, comment ça se passe, je dirais? Est-ce que ça reste juste un rapport de force entre des élus qui à un moment se disent c'est moi qui ai raison, etc. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des méthodes d'animation qui peuvent aller justement pour que les décisions d'élus se fassent vraiment dans un rapport un peu transversal entre les nécessaires délégations? On ne va pas avoir que des élus transversaux.
Moi, j'aborde cette question-là sans modèle et sans solution. Je ne crois pas qu'il existe de solution. Je ne crois pas qu'il y a un modèle d'organisation de la transversalité. Et donc, ça ne s'aborde pas de cette manière-là, ça ne s'aborde pas comme une réorganisation en disant bah voilà, je vais faire des fonctions transversales, je prends un organigramme. Et puis, parce que c'est une question de beaucoup de postures et ça dépend des gens. Vous avez beau réfléchir aux mêmes organisations, assez vite, vous pouvez choper sur le fait qu'il y a des gens qui sont dans leur truc et ça ne les intéresse pas les autres. Il y a une limite à réfléchir ça en termes d'organisation. Par contre, je crois beaucoup, j'en suis persuadée, c'est que dans la méthodologie de ces choses-là, le fait de porter la question de « on a une transition à faire, on a un rendez-vous à 2030 qui est 40% de baisse des gaz à effet de serre, on a à 2050 la neutralité carbone », voilà l'objectif qui est là. Et donc, je pilote en fonction de ça. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que disait Éloi Laurent sur la nécessité de se donner des indicateurs, etc. Et après, toutes les organisations sont possibles. Et je pense qu'à travers des choix d'intitulés, de délégations, etc., vous faites passer ou vous ne faites pas passer le message que c'est ça qui vous fait avancer. Et puis après, je pense qu'il faut aborder ces choses-là avec beaucoup de pragmatisme. Vous faites avec les moyens que vous avez, dans le temps que vous avez, et puis... Mais mettre à l'agenda ces questionnements, en fait, c'est déjà faire un pas. Moi, j'en suis vraiment persuadée, et sans attendre le grand soir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... on va construire l'organisation qui va penser la transition. Vous voyez le truc, bon, là, vous avez déjà perdu tout le monde, vous avez mis tout le monde en stress parce que je vais perdre mon poste, enfin bon. Donc, non, il ne faut pas faire ça, évidemment. Il ne faut pas faire ça. Mais c'est pour ça, je pense que ceux qui arriveront à faire ça, c'est le début, pour moi, de penser les choses différemment que de faire les choses comme ça. Et donc, quand je dis les métropoles qui vont réussir sur celles qui vont cranter sur cet aspect-là, moi, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'il faut avoir des élus dans ce cas-là. Enfin, moi, évidemment, je vais avoir un prisme. Moi, je crois beaucoup aux élus, mais je me suis beaucoup amusée. Je vais donner un exemple. J'ai un projet, je pars en même temps, mais j'ai un projet de... Comme la loi de l'homme est une invitation à penser la mobilité inclusive, vous savez. Donc, je me suis dit, je vais mettre tout le monde dans une salle. Tous les services insertion, ceux qui sont, ils sont experts de leur question d'insertion des personnes. Et ils font des PowerPoints où ils vous expliquent que dans 70% des cas, une personne en insertion refuse un emploi pour un problème de mobilité. Et donc c'est la faute des services de mobilité. Et puis vous avez les gens qui s'occupent de la mobilité, qui sont là dans les gens en insertion, à chaque fois qu'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils veulent nous demander des subventions pour payer des aides au permis de conduire. Complètement pas post-climatique, cela, parce qu'en fait, prendre sa bagnole, c'est vraiment le truc, mais complètement admin. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, je vais les mettre tous dans une salle, je vais leur expliquer ça. Je vais leur dire, bon, je sais ce que les gens de la mobilité pensent des gens de l'insertion et de leur aide au permis de conduire. Et vous, les gens de l'aide au permis de conduire, je vais vous dire ce que aussi les autres pensent de vous et inversement, etc. Et alors, tout le monde est sorti, ravi de cette réunion en disant « Mais c'est vrai quand même qu'on pourrait peut-être penser des choses autrement. » Et en fait, là, on était... Et je pense qu'il faut réussir à faire des organisations où ça, c'est possible. Vous restez avec des experts de la mobilité, hein. Moi, je pense que... Et c'est ce que j'ai... D'ailleurs, je voulais expliquer aux gens d'insertion. Vous êtes... je dis les gens, l'insertion, si vous voulez, ils ont imaginé la mobilité sous forme de services pour leurs bénéficiaires, vous voyez. Donc, ils ont des packs de mobilettes. Nous, on est en train de faire mobilité, on est là, vélo électrique, pack de mobilettes. Pour les personnes en insertion pour aller chercher du boulot. T'es complètement en dehors du clou, là. Ça ne va pas du tout. Et donc, ça se parle pas, quoi. C'est, on est sur des choses... Alors qu'en fait, c'est vrai que à l'inverse, il y a beaucoup de bons sentiments, c'est dans la mobilité, hein. La gratuité des transports, vous voyez, ambiance... ben oui, tout le monde le prend, le transport en commun, oui. Et puis alors, le truc, j'aurais dit, la mobilité... Moi, ce qui m'énervait dans la mobilité par rapport aux personnes en insertion, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler du trajet domicile-travail en disant qu'ils vont faire du covoiturage sur le trajet domicile-travail. Mais vous savez que quand vous vous adressez à une personne qui est en recherche d'emploi, ni le domicile, ni le travail n'existent. Vous êtes là en train de penser la mobilité entre le point A et le point B pour celui qui est en insertion, il est sur un domicile qui est changeant. Et il est sur un boulot qui change tout le temps. Et qui est... Donc, il n'y a pas de point A, il n'y a pas de point B, et vous êtes là. Le covoiturage, sur le domicile de travail, sur le domicile de travail. Je dis, mais ça déjà, et qui va aller dans le covoiturage? Ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, est-ce qui va être le plus intéressé par avoir des services de covoiturage? Mais c'est les personnes en insertion qui n'ont pas de bagnole, qui n'ont rien du tout. Donc, si vous pensez à un système de covoiturage et que vous le pensez avec des trucs qui ne parlent pas à ceux qui peuvent être les plus grands bénéficiaires, mais vous allez dans la catastrophe déjà avant d'avoir commencé. Et c'est ça que... moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que les élus sont capables de faire des choses comme ça, c'est-à-dire de mettre des espaces de discussion de ce type. Après, chacun... et quand les liens sont faits, et chacun peut rester expert moi, je ne suis pas pour des gros trucs transversaux où il n'y a plus aucune expertise de rien du tout, tout le monde pense tout, qui peuvent être les biais. Hein, vous voyez, des réorganisations par la transversalité, là, où finalement, je pense que c'est un petit peu arrivé à l'État, excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense qu'on a une dissolution, une expertise, quoi, qui peut être en fait un vrai sujet de la question de la transversalité. Donc, il ne faut surtout pas faire ça.
Je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Parce
vous vous présentez sens...
Pardon, excusez-moi, Sylvie Van Moon. Service inspection, contrôle, évaluation, ça s'appelle Conseil général de l'environnement et du développement durable et autorité environnementale. Alors, je suis très sensible à ce que vous venez de dire parce que il me semble que vous établissez bien. Les responsabilités entre les uns et les autres. D'un côté, vous avez une administration, des administrations, qui doivent apporter une capacité d'analyse et d'expertise sur des demandes qu'on leur fait, à condition qu'on leur fasse les demandes, et pas qu'on attende d'elles qu'elles prennent l'initiative de faire les demandes. Et d'autre part, des politiques qui ont une vision, une vraie vision stratégique. Et on a, je trouve, très souvent, et c'est ce en quoi je ne me retrouvais pas du tout dans l'exposé de Bettina Lavi tout à l'heure, on a des politiques qui n'ont pas de vision, qui réfléchissent comme si le lendemain allait leur apporter la vision qu'ils n'avaient déjà pas la veille. Et donc, je pense que on peut reprocher tout ce qu'on veut aux administrations. Je partage le sentiment que ce que personnellement j'ai qualifié de PA hostile du ministère de l'Équipement sur l'environnement était une ânerie monumentale en termes d'environnement. Ok, mais ça ne change rien au fait que si on n'a pas de vision devant, on ne fait que accumuler des mesurettes contradictoires les unes avec les autres. Voilà, c'était simplement, il me semble que nous avons aussi une responsabilité politique, y compris en tant que citoyen, à ne pas systématiquement choisir des gens qui n'ont pas de vision politique.
Je dis une
bêtise ?
Alors, juste pour réagir, parce que j'aime bien, c'est-à-dire que moi, depuis que je fais de la recherche sur ce domaine-là, j'entends toujours que les gens ont des visions, et c'est très, très important. Et alors, il se trouve que historiquement, c'est juste pour rire, il y a John Galbraith, qui était le conseiller de Kennedy, et qui un jour était un peu fatigué par ça, mais je suis d'accord avec vous sur le fond, hein, si je sais. Mais j'ai tellement vu de gens qui veulent avoir des visions avant autre chose, « When you have a vision, see a doctor
!» ça veut juste dire que on peut retrouver l'argument et qu'on a aussi une très très grande capacité des gens pour avoir des visions sur plein de choses et qu'il ne se passe absolument rien derrière. Hein. Donc tout ça, c'est un équilibre entre les différentes choses. C'était juste pour... je ne peux pas résister. Un jour, j'ai fait une étude sur un territoire, dans le nord de l'Angleterre, il y avait 27 visions. Ça faisait 20 ans que le territoire était en déclin, mais avec les 27 visions, on n'a pas beaucoup avancé. Hein.
Bon, alors disons que je vais l'illustrer avec un exemple positif, oui, qui était qu'à la Commission européenne, on disait que Jacques Delors avait 25 idées à la journée et que le travail de Pascal Lamy, c'était parmi les 25 idées par jour, d'en trouver une par semaine qui était vraiment visionnaire et qu'il fallait mettre en œuvre. Et qu'ensuite, son travail, c'était de la mettre en œuvre.
Voilà, je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas dire vision, mais je pense que idée, c'est bien. Effectivement, il faut faire de la politique quand on a des idées. Ça, c'est bizarre de devoir le dire comme ça. Mais en vrai, vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'avez pas des idées.
C'est pas bizarre. C'est courageux parce que ça ne se dit plus.
Ça ne se dit plus. Ça ne se dit plus. Et alors, je juste, parce que je ne sais pas s'il y en a qui commis des choses comme ça ici, mais je crois avoir vu circuler un rapport sur il faut former les élus. Je suis effrayée. C'est-à-dire que je crains des approches comme ça. Je vous dis franchement, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de techniciens bis. C'est pas l'idée. Vous n'êtes pas là pour ça. Et alors, on a l'impression que... Parce que vous allez avoir des gens qui ont des idées, vous allez les former, puis ils vont finir par dire « Non, mais mon idée, ça m'en change jamais. »
Ben ouais. On va prendre 2-3 questions à suivre, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, on a...
Merci d'abord pour vos deux interventions qui étaient tout à fait passionnantes. Moi, je suis fonctionnaire d'État, j'ai vécu 4 ans pareil. Je voulais juste prolonger de très belles villes, au demeurant, avec des bonnes circulations pendulaires malgré tout, même si elles ont tendance à se sensibiliser un peu avec le temps, mais qui fonctionnent encore pas trop mal. Moi, je voulais prolonger le débat, puisque vous avez évoqué l'articulation entre collectivité et État, et vous l'avez pris sous l'angle de l'atteinte des objectifs, en me disant qu'en gros, l'atteinte des objectifs sous l'angle du développement durable de la collectivité, de la métropole, elle était liée au fait qu'en gros l'État atteigne sa part avec un bon fonctionnement. Et je voulais, si vous voulez bien, votre témoignage sur la partie aussi du fonctionnement quotidien par rapport à ça, puisque nous, services de l'État, on est confrontés en déconcentré à des baisses continues et qui commencent à ressembler même à des hémorragies sur un certain nombre de compétences. En même temps, on a des collectivités qui montent en puissance en face. Et de manière assez peu créative, on nous dit finalement, il faut supprimer les doublons, laisser faire les collectivités, et puis arrêter tout ça. Et on voit bien que nos services, de manière continue, quelles que soient les personnalités des directeurs, des préfets, ont toujours été assez réticentes à ça, en disant, mais vous savez, on ne fait pas la même chose, même si on est sur le même domaine, même si on a le même intitulé. Il y a la métropole, il y a la région, il y a le département, mais sur le même sujet, on apporte autre chose, etc. Et puis, d'un point de vue de pur gestionnaire, entre guillemets, on dit oui, là, vous faites sans doute un peu plaisir, faites de la place. Et je voulais savoir, vous, quelle était votre vision par rapport à ça, parce que dans le fond, c'est un appui ou peut-être des fois un frein d'avoir le même service que celui de la métropole en face à l'Adréal, à la DDT ou en préfecture. Ouais.
On va prendre trois questions, si tu veux. Sandra ?
Oui, je voulais...
Vous prendre le micro, peut-être ?
Oui.
Parce que la salle est un peu...
J'ai été étonnée par au-delà de l'extrême bien que vous exposez, évidemment, la sortie de Madame Lavie contre le Grand Paris. En fait, j'aurais voulu avoir un peu d'éléments là-dessus, c'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que c'était une... Enfin, et notamment le Grand Paris Express. Que le Grand Paris Express, c'est une infrastructure qui est là pour structurer une zone qui est déjà agglomérée. Et donc plutôt pour... encourager la densification de la première couronne et que finalement c'est un projet à l'échelle dont parlait Gaël Ambaud, c'est-à-dire à l'échelle métropolitaine qui me semblait être la bonne échelle. Et donc j'étais étonnée par cette charge contre ce projet. Donc je voudrais vous en parler.
On va reprendre encore une autre question.
Oui. Ouais. Bonjour, Catherine Coons, enfin, moi je ne suis pas du tout dans le public, je suis dans le privé, je travaille chez Bouygues, je coule un peu de béton de temps en temps, mais voilà. Mais c'est pas sur ces sujets-là que je voulais intervenir. J'ai quelques remarques. On parle beaucoup d'échelle métropolitaine. Alors moi je viens de l'Est, je viens de Strasbourg, qui est une communauté urbaine depuis très longtemps, avec des services unifiés, communauté urbaine, ville depuis très très longtemps. On pense que c'est la bonne échelle, est-ce qu'il ne faut pas du coup repenser un petit peu le millefeuille et quelque part, est-ce que le département a encore un sens? J'en veux pas aux gens qui travaillent dans des conseils départementaux, mais on voit bien que, par exemple, l'Allemagne, ça se joue à l'échelle des grandes métropoles et des régions qui sont les Länder en Allemagne mais qui seraient l'équivalent de grandes régions. Ça, c'est la première chose. En plus, quelque part, les élections, ça donnerait peut-être un peu plus de souffle et de perspective, parce qu'on est continuellement en période électorale en France, avec des affrontements d'appareils politiques qui sont beaucoup sur des postures, et qui expliquent aussi que maintenant, on a effectivement des citoyennes de tout et n'importe quoi qui apparaissent, de gens peu structurés, et la politique, je pense que c'est une vraie conviction, un vrai métier, enfin, une vraie appétence à ça, et pas juste vouloir un peu... rentrer dans un jeu compliqué. Et la dernière chose, on parle beaucoup de démocratie depuis deux jours, mais on ne parle jamais d'éducation. Or, pour faire vivre une démocratie, à mon sens, et qu'elle soit vraiment pertinente, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur l'éducation des électeurs pour que les choix puissent être plus pertinents et moins épidermiques parfois dans les
élections. Merci. On répond au premier groupe de questions, puis après on fera un deuxième groupe.
Est-ce que c'est un frein d'avoir l'État dans les territoires? Moi, je crois pas. J'ai décidé d'arrêter de penser. J'ai fait beaucoup de rationalisation. Je suis élue quasiment depuis qu'on baisse les budgets. Donc, j'ai décidé, je ne suis plus élue. Je n'ai plus envie d'assumer ça, d'un point de vue politique. Quand vous êtes en responsabilité, vous êtes obligé de faire des rationalisations. Parce que, je vous ai dit, on me donne toujours les finances. Je termine toujours les finances. Et je rends des comptes qui sont toujours très bien, parce qu'à Rennes, il faut que les choses soient comme ça. On a payé Ruby sur Londres, notre métro, en 10 ans. Je veux dire, le deuxième, ça sera pareil, ça sera comme ça. Donc, c'est carré. Mais cela dit, quand vous faites justement de la politique, vous pouvez vous extraire un peu de tout ça. Et je pense, enfin, ça va rejoindre la question des millefeuilles, des doublons, des trucs comme ça. On se laisse embarquer dans un discours que finalement la solution va être à trouver quand il y aura moins de monde à faire les choses, moins d'argent, moins de tout, et que ça va être ça la solution. Alors que finalement, quand vous diagnostiquez les enjeux, vous vous dites qu'il faudrait avoir des forces vives, quoi. Quand même, il faudrait penser les choses, donc moi, j'ai décidé, mais en même temps, je ne peux plus lire, j'ai décidé de ne plus assumer des choses de cet ordre-là parce que Je crois qu'effectivement, non, il y a du dialogue intelligent à construire entre l'État et les collectivités. Et dans l'ensemble, enfin, après moi je suis élue, donc je ne l'éprouve pas d'un point de vue technique, hein, ces questions-là, mais je trouve que ça se passe plutôt en fait, très très bien dans les territoires. En fait. Enfin, autant je sens qu'il peut y avoir des tensions au sein de l'État, j'ai bien compris ça, mais je ne perçois pas aujourd'hui sur des questions de stratégie territoriale, notamment de stratégie climatique territoriale, des points d'achoppement ou des visions complètement orthogonales ou qui amèneraient à une sorte d'immobilisme du territoire parce que personne ne veut aller dans le même sens. Enfin, je suis pas dans tous les territoires de France, hein, mais je suis pas sûre que ce soit un sujet d'analyse aujourd'hui des politiques publiques que de montrer qu'il y aurait là quelque chose de profondément dérangeant que d'avoir une vision étatique et une vision plus, plus locale des choses à l'échelle du territoire. Après, cette question-là, elle se pose quand même assez grandement sur la question, je raisonnerai peut-être pas pareil pour les régions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question de modèle sur le modèle régional, ce qu'on attend des régions. Et c'est pas évident, et je trouve que l'État est ambigu. Avec, alors, je ne suis pas élue régionale, je peux regarder ça. Mais je trouve ça très ambigu parce que je trouve qu'il y a une sorte de mainmise. On sent que finalement les rationalisations post-RGPP fait que, comme il y a eu une perte finalement, donc l'idée c'est de copiloter, vous voyez, le truc avec le président du conseil régional. Et vous avez beaucoup de réunions, de plus en plus, hein, en région, sur toutes les questions stratégiques, où en fait vous êtes sur des choses où il y a le préfet de région et puis le président. Et quand vous êtes convoqué, et c'est souvent ces deux choses-là. Et je ne sais pas si c'est très pensé. Et en tout cas, c'est pas très décentralisateur. Ça fait penser à l'ancien truc. Ça fait penser à l'avant, quoi. L'avant de 1980. Mais ça va être un choix là aussi. Est-ce que c'est ça finalement le modèle qu'on a envie de donner pour les régions, cette cohésion avec d'un côté un représentant étatique, à ses côtés un représentant élu. Et il faut aussi se dire tout n'est pas à jeter, quoi. Hein, et à ce niveau-là, il y aurait peut-être des fusions à faire.
Je vais vraiment essayer d'être courte. Alors, sur le Grand Paris, j'ai fait une sortie sur le Grand Paris, parce que j'en parle un peu, hein, moi, je m'interroge beaucoup, effectivement. Je ne parle pas de la politique de métropole en particulier, parce que les politiques de métropole et le Grand Paris, c'est quand même un peu différent. Je veux dire, le Grand Paris, c'est quelque chose en soi. Par rapport, j'ai fait ça par rapport au développement durable. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, ça me rappelle l'époque de la formation de votre institut, où Jean-Louis Guigaud, pour ne pas le nommer, avait une grande théorie qui considérait que dans 30 ans, puisque lui faisait encore la perspective que personne ne fait plus, il y aurait de grandes métropoles immenses qui se répondraient les unes aux autres, et ça serait ça l'organisation de la planète. Alors effectivement, c'est la tendance. Est-ce qu'en matière de durabilité, il vaut mieux avoir de grandes métropoles qui consacrent par conséquent, qui consacrent institutionnellement l'étalement urbain, parce que c'est quand même ça, la métropole de Paris, c'est à la petite couronne, je t'en rajoute une grande, encore plus importante, à cause des prix du logement, quand même profondément, c'est ça, c'est le prix du logement qui fait ça, et à cause de la concentration de l'activité sur Paris, etc. Par conséquent, même avec une politique de transport urbain active, Vous avez de plus en plus de déplacements en voiture, d'une part, de plus en plus de trajets, et par ailleurs, comme vous l'avez dit d'ailleurs par rapport aux gens qui n'ont pas toujours du travail, de plus en plus d'isolement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ça, c'est-à-dire forcément, sauf à avoir une politique de transport absolument révolutionnaire et des transports propres, parce que les pistes cyclables, c'est génial, mais vous ne pouvez pas aller en bicyclette jusqu'à Rambouillet quand même, en tout cas tous les jours. Vous arrivez de temps en temps, le week-end, mais pas tous les jours. Bon. Donc, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir cette concentration ou est-ce qu'il vaut mieux penser complètement, ce serait très long, le modèle avoir une capitale et autour de la capitale, des petites capitales, des petites villes, comme il y a dans la politique de ville moyenne, qui est une politique intéressante, où on consacre, où on investit pour des activités économiques et où les gens restent, vivent, travaillent dans des villes où il y a plus d'activités, par conséquent moins de déplacements et où du coup les prix de logement seraient complètement cassés. Moi je trouve que c'est une vraie question. C'est une question sur Paris, ça y est, on a répondu. Hein. Mais qu'on ne me dise pas, que le modèle métropole est un parisien, enfin parisien ou n'importe quelle grande capitale européenne mondiale d'ailleurs, est un modèle de développement durable. Ça non, je veux dire, assumons le fait que l'histoire d'une grande ville, d'une grande capitale comme Paris a amené ce modèle, et qu'il faut essayer d'améliorer sur le plan de la durabilité, des émissions d'effet de serre, des circuits courts, des espaces verts, etc. Mais ne disons pas que c'est une évolution durable. C'est absolument faux. C'est pour ça que j'ai fait modestement une sortie. Je peux rajouter deux choses ou non?
Oui.
Non, vraiment. Alors, voilà. Premièrement, moi, vous avez tout à fait le droit, madame, de ne pas être d'accord avec moi, c'est vraiment tout à fait, mais je ne comprends pas pourquoi. Autrement dit, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, parce que vous dites quelque chose, moi, vous dites beaucoup, vous dites, c'est notre faute si les politiques n'ont pas de vision. Autrement dit, on élit des politiques qui n'ont pas de vision, hein, je veux dire. Et moi, j'ai dit qu'une fois au pouvoir, je n'ai pas parlé de toutes les politiques, hein, j'ai parlé du président, du niveau suprême de l'État. Il finissait par avoir une vision en matière de développement durable, et en tout cas d'embrasser le sujet de développement durable, bien ou mal, hein, je veux dire, voilà. Ben oui, alors on élit des politiques qui n'ont pas de vision, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, on va en élire d'autres, et on va y dire comment les gens. Ok, c'est de notre faute, mais jusqu'à maintenant, sauf être contre la démocratie, c'est quand même l'élection, qui est quand même le mode le plus intelligent de sélection des dirigeants dans une démocratie. Donc, ça veut dire quoi ce que vous dites? Ça veut dire, et là vous avez tout à fait raison, qu'il y a une éducation citoyenne absolument extraordinaire à faire, une évolution des citoyens pour qu'ils élisent des gens qui ont une vision, on est toujours dans le sujet de développement durable. Bon, voilà. Et troisièmement, je trouve que vous avez dit quelque chose de très très intéressant, à part tout ce que vous avez dit qui est très passionnant, c'est dramatique ce que vous dites. C'est dramatique quand vous dites, et ça moi je le ressens dans beaucoup de villes, que tout le monde dit la même chose, à partir de la fin des idéologies, d'une part, et d'autre part, quand vous dites, madame, que c'est un affrontement, les élections municipales, c'est un affrontement politique, ben non, plus du tout, justement. C'est plus du tout. Ça peut être un affrontement de personnes, mais c'est pas du tout un affrontement de projets politiques. Je veux dire, ces élections-là vont enterrer, je parle sous le contrôle du professeur, l'élection qui vraiment a fait, à un moment donné, une césure en France. Très importante, et on est arrivé à une politique municipale tout à fait différente d'avant, c'est les élections de 78, en l'occurrence, hein, les élections de 77, pardon. Ça a été quelque chose de très important, ça a été une nouvelle vague du municipal, et pendant 30 ans, avec plus ou moins le bonheur ou le malheur, enfin, ça a changé, les élections de 77, ça a changé les villes de France complètement, je veux dire, ça c'est clair. Bon. Mais là, c'est, à mon avis, c'est peut-être c'est là l'anti-élection. Alors peut-être que ce manque d'idéologie est finalement une espèce d'idéologie verte un peu molle qui changera quand même les choses, ça c'est possible, on ne sait pas, ça c'est possible, enfin il y a quelque chose. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez dit un truc très important, c'est les histoires publiques-privées. Parce que il y a quand même quelque chose qui nous entrave complètement, qui entrave complètement les villes, l'État, dans la timidité du verdissement pour aller vite ou de la durabilité, c'est les marchés publics. Tant qu'on aura des lois qui feront que le moins 10 ans l'emporte sur le critère environnemental ou sur le critère social, tant qu'on aura ça, on ne changera pas les choses. Et ça, c'est absolument capital. Et à chaque fois que, au Conseil d'État en particulier, il y a des marchés publics qui sont contestés sur ce plan-là, parce que quand même quelqu'un dit bah, « moi j'étais meilleur dans l'environnement et c'est l'autre qui a été choisi », eh bien, le Conseil d'État, le pauvre, il applique la loi, et il applique la loi, c'est que c'est le moins 10 ans. Bon. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement changer, première observation. Deuxième observation, public-privé, il faut refaire ça. L'État a de moins en moins d'argent, les collectivités locales sont dans les difficultés que vous décrivez, et je suis désolée, mais en dehors de toute idéologie, il y a le privé, on n'est plus du tout dans les écoles de DSP, etc., mais le privé en particulier, d'ailleurs à travers le numérique, moi, c'est un sujet nouveau pour moi, mais que je commence à approfondir, je veux dire, le privé a, en particulier par l'ouverture des données, etc., des missions subreptices d'intérêt général. Et tant qu'on n'aura pas refondé les relations entre le public et le privé à travers, moi, un concept que je défends beaucoup, qui est bien commun, parce que l'intérêt général aujourd'hui est une notion qui ne correspond... Cet intérêt général, c'est quand même une brique de Napoléon. Bon, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les plombs. Alors, c'est évidemment le fondement des institutions, etc. Mais il y a un autre sujet qui est passionnant, qui est le bien commun. Le bien commun amène une certaine part du privé au nom du bien commun, à condition que la délimitation soit bien faite. Mais moi, je défends, il y a un rapport qui va paraître, qui bientôt, de je ne sais plus quel député, je suis vraiment désolée, mais il trouve que l'association Le Rameau en est chargée. Et nous collaborons avec elle. Et moi, je prône dans le rapport qu'on vient de finir et à travers Le Rameau, une société de bien commun. Vraiment, au sens juridique du terme, hein, comme il y a voilà. Parce que ça peut, c'est une société, si elle était bien, ce modèle juridique, si elle était bien conçu, permettrait de faire du public-privé au nom du bien commun. Voilà. Et ça, c'est au nom de l'intérêt général, c'est pas possible, nos institutions ne le permettent pas. Ça se heurte à la Constitution. Donc il faut changer de catégorie juridique pour arriver à construire du bien commun également avec le public.